Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Dr House. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors oui, on pourrait commencer ce Previously en plongeant tout de suite dans la vie du docteur Gregory House, l'infaillible diagnosticien de l'hôpital Princeton-Plainsboro. Un hôpital fictif, comme lui aussi il est fictif. Ah oui, parce que ce n'est pas un vrai médecin. Non, je dis ça parce que il y a des gens qui lui envoyaient quand même des demandes pour soigner leurs proches. Mais bon, à bien y regarder, docteur House, c'est quand même ça.
Il y a une courbure, là, qui va vers le haut.
Vous dites ça au pif ?
Oui.
En plein dans le mille.
Il a certainement bougé. Personne ne reste parfaitement immobile pendant une IRM.
Oui, il en pouvait plus, alors il a fait glisser un de ses hémisphères cérébraux dans une position plus confortable. Quelque chose appuie dessus.
Et s'il y a courbure, c'est peut-être une tumeur.
Vous voyez une tumeur là-dessus ?
Non, mais je ne vois pas non plus de courbure.
Oui, les séances de diagnostic avec les docteurs Chase, Foreman et Cameron, bah, généralement, c'est pas hyper drôle.
Ou ce n'est pas un cancer.
Vous plaisantez ?
Oh, c'est trop tentant. Le cancer, c'est hilarant.
Et si c'était un tuberculome ? Elle vit dans la rue, respire des saloperies non-stop, gros risque de tuberculose, elle a une tumeur bénigne en prime.
Elle a une masse solide à un ovaire. L'hypothèse du cancer est plus réaliste.
Exact. Ça ne tient pas la route. On la met sous INH, rifampicine et streptomycine.
C'est le traitement contre un tuberculome, ça ?
Et c'est quoi le traitement contre un cancer avancé de l'ovaire ?
Oui, voilà, ça c'est quand même pas le sujet qui va vous donner la pêche si on commence comme ça, j'avoue. D'autant qu'après Star Wars et Happy Days, on pourrait continuer de manière un peu plus amusante que ça. Non, je pensais amusant, mais pas affligeant, quoi. Non, mais il y a des limites. Bon, alors... Je vous propose de nous lancer dans l'histoire plutôt comme ça. Ah ouais, hein, ça vous dit quelque chose, ça, hein ? Oui, je vous propose plutôt de venir participer à American Idols. La version américaine du télécrochet inventée par Simone Fuller en Grande-Bretagne sous le titre de Pop Idol et que l'on connaît en France sous le nom de Nouvelle Star. Et de vous régaler avec les chanteurs et chanteuses qui se sont présentés devant les juges Randy Jackson, Paula Abdul et le redoutable Simon Cowell. Je vous préviens, vos oreilles vont saigner.
The bloody hell was that?
Well, get your cakes on Route 66! Yeah!
Oh, God! I'm just a poor man, I need no sympathy. Cause it's easy come, easy go, little high.
Don't let the sun go down.
Voilà, là maintenant je suis certain que cela vous a détendu. Maintenant vous allez pouvoir encaisser la vérité. Prêt ? Si Dr House existe, c'est grâce à la Nouvelle Star. Ah ouais, hein ? C'est un choc, hein ? Alors asseyez-vous, séchez vos larmes, reprenez votre respiration. Calme, je vais tout vous expliquer. En quoi notre génial diagnosticien doit tout à l'émission, car révélé au monde tant de chanteurs et de chanteuses. Enfin, bon, bref. Mais pour cela, il faut revenir en arrière, quelques années avant le lancement du Dr House sur la chaîne Fox aux États-Unis. Dans la foulée du succès phénoménal de Survivor sur CBS, alias Koh-Lanta, et de Who Wants to Be a Millionaire, qui veut gagner des millions sur ABC, un certain Mike Darnell se retrouve sur la chaîne Fox à la tête de toute une panoplie d'émissions à la limite du trash et qui obtiennent cependant d'énormes audiences, mais pour les mauvaises raisons. qui veut épouser un milliardaire quand les animaux attaquent, et Breaking the Magician's Code, avec un magicien masqué qui révèle les trucs les plus basiques. L'île de la Tentation aussi, The Chamber, où le candidat était torturé s'il ne répondait pas correctement aux questions. Sauf que, à la rentrée 2004, la chaîne se repose tellement sur les programmes de Darnell, ces séries alternatives, comme on les appelle, qu'il y a beaucoup moins de séries écrites. Les séries scripted, de Patron Incognito jusqu'au Millionnaire Rebelle avec Richard Branson, en passant par The Next Great Champ, un concours de boxeurs. En concurrence avec celui que présente Sly Stallone sur l'autre chaîne, ben y a pratiquement plus que ça. Ahurissant. Donc, vous voyez, dans ce magma, le lancement de House, le 16 novembre, passe un peu inaperçu. Les premiers épisodes font à peine 7 millions de téléspectateurs. Le bide. Et c'est à ce moment qu'arrive la nouvelle star. American Idol, c'est la déclinaison américaine du télécrochet de Simon Fuller, le manager des Spice Girls, avec le producteur de disques Simon Cowell. Lancé en 2002 pendant l'été, le programme est, à la surprise de tous, un smash hit. Mais vraiment, hein. Et très vite, il devient récurrent en janvier de chaque année, avec les auditions d'abord. Mais quand je dis un smash hit, ben, là, franchement, je suis en dessous de la vérité. American Idol fait une telle audience qu'elle porte toute la chaîne à bout de bras et renvoie loin, loin les shows racoleurs de Darnell. Ça fait 9 millions, puis 12 millions, 18, 22 millions, 26 millions de téléspectateurs. Nous sommes donc à la saison 4 de American Idol et en ce début janvier, son audience est de, accrochez-vous bien, 33 600 000 spectateurs. Bon, on est content pour eux, mais et le Dr House dans tout ça? Ben, il va se retrouver diffusé juste après American Idol. Le show est programmé à 20h et la série Dr House à 21h. Instantanément, House passe de 7 à 12 millions en une semaine. American Idol fait office de locomotive et incite les gens à ne pas zapper après le programme. Des millions de spectateurs vont donc découvrir Gregory House et en faire leur médecin favori. Et cela, tout le monde en est conscient, même les acteurs. Écoutez ce que Jesse Spencer, l'interprète du rôle du Dr Chase, nous en disait.
On a assez vite décollé et ils nous ont mis dans une bonne case, juste après American Idol, qui obtient toujours les plus gros scores d'audience de tous les temps.
On a donc bénéficié de beaucoup d'expositions.
Mais ensuite, même sans American Idol, Dr House conservait son audience. Et donc, la série se reposait sur ses propres mérites. Voilà. Et la chaîne va même jouer avec cette programmation en associant le Dr House et le juge vedette de American Idol. House, ben c'est comme si Simon Cowell devenait docteur. Jesse Spencer a raison, mais en coulisses, on respire. Non seulement les programmes alternatifs de Darnell pour cette saison ont été une catastrophe, mais cela aussi marque le retour en force des séries de fiction sur la chaîne, et ça, c'est tant mieux. À l'origine de Dr House, on trouve le scénariste Paul Attanasio, qui vient juste de créer la série Tommy avec Eddie Falco et Bull, la série avec Michael Weatherly. Il a déjà produit des séries médicales comme Gideon's Crossing et policières comme Homicide, toutes les deux avec André Brower comme vedette. Et c'est justement parce que, malgré ses qualités, Gideon's Crossing est un échec que Attanasio cherche une autre accroche pour une série médicale. Et l'idée de la série, il l'obtient en lisant une chronique du New York Times, Diagnosis, par Lisa Sanders. Elle traite des maladies rares. Comme le sujet serait un peu rébarbatif, semaine après semaine, il décide donc d'en faire une série d'investigations, un peu comme une série policière, à la façon Les Experts, où on traque un meurtrier, sauf que là, le meurtrier, c'est un virus ou une bactérie. Cette évidence dans le traitement provoque un emballement auprès de toutes les chaînes pour ce qui s'appelle initialement le Shore Attanasio Project. Elles surenchérissent pour avoir la diffusion de la série auprès de Universal, sa maison de production. C'est simple, c'est futé, c'est efficace. C'est ce que confirme le producteur de la série, Brian Singer.
House est comme une série policière traditionnelle, sauf que le coupable est une maladie et que les flics portent des blouses blanches.
Brian Singer ? Le Brian Singer ? Mais oui, c'est lui, le réalisateur des X-Men, du Superman Returns. C'est lui qui sert de caution à la série pour pouvoir convaincre une chaîne de la lancer. Singer a en effet été producteur de pas mal de séries comme Legion, Dirty Sexy Money ou The Gifted. L'autre force créative de la série, c'est David Shore, un scénariste qui a travaillé sur des séries comme Family Law, associé pour la loi, et New York District. Et depuis, il est à l'origine de The Good Doctor, adaptation d'une série sud-coréenne avec Freddie Highmore. Le projet devient donc une série avec un format, une structure immuable pour chaque épisode. Tout d'abord, le patient apparaît dès le pré-générique. Le jeu est de savoir qui va s'écrouler, pris de convulsions ou tomber gravement malade, parmi tous les personnages qui nous sont montrés dans ce pré-générique. Puis, il y a les tests et les examens à répétition. Il y a les analyses de Gregory House avec les contradictions de ses assistants. Et puis, il y a l'illumination finale, digne du « bon Dieu, mais c'est bien sûr » de Burrell. Parce que House est infaillible. Il découvre toujours la cause du mal qui frappe le patient, même après avoir tâtonné pendant tout l'épisode. La série est formatée comme une enquête criminelle, mais c'est la personnalité de House qui change tout. Sinon, ça deviendrait très vite ennuyeux, dit Bryan Singer. Arrive alors la personnalité du docteur Gregory House. Il affirme que tous les malades mentent, ce qui fausse le diagnostic. Éliminez le malade, gardez les symptômes et vous pourrez découvrir la maladie et l'éradiquer. Pour y arriver, House ne répond à aucune règle. Il a un dédain absolu pour l'éthique médicale qu'il bafoue constamment, allant jusqu'à faire chanter un collègue, menacer un malade ou aller contre le souhait du patient. Il se moque aussi éperdument de la loi, puisqu'une partie de la procédure consiste à pénétrer par effraction dans l'appartement de ces malades pour y trouver des indices sur leur maladie. House a une absence totale de respect pour l'autorité, quelle qu'elle soit, et surtout celle de ses supérieurs.
Tenez, c'est cadeau. Vous pouvez rentrer chez vous et interroger votre fille.
Pardon ?
Le chemisier, le pantalon, le foulard, vos vêtements sortent tous du pressing, sauf la veste qui a une vilaine tache. Ça remonterait à 2 jours, Maxi, donc vous l'avez mise sans savoir qu'elle a été portée. Donc, soit votre cher mari est un travesti, soit votre fille vous emprunte vos vêtements en douce. Sûrement pour se vieillir, pour entrer dans les bars.
Je n'ai pas de fille.
Alors, ce sens de la déduction, là, ces petits détails, ça vous fait penser à quelqu'un, n'est-ce pas ? Un certain Holmes, Sherlock Holmes. Eh bien, les liens avec Sherlock Holmes sont évidents. Et David Shore admet ouvertement l'inspiration avec un personnage qui fait passer l'intellect et la recherche de la solution de l'énigme avant l'émotion et la vie des gens. House et Wilson, son meilleur ami au sein de l'hôpital, interprété par Robert Sean Leonard, sont des noms qui sont clairement un hommage du créateur de la série au personnage de Conan Doyle. Parce que House, c'est Holmes, et Wilson, c'est Watson. Et dans un épisode, on voit même que l'adresse de House est le 221B. Comme Sherlock Holmes, il y a de nombreuses références, des noms de patients ou même des apparitions de livres de Conan Doyle qui sont éparpillés au fil des épisodes. Bon, ben maintenant, on a le basique, tout va bien, il suffit de trouver l'acteur pour incarner le personnage. Initialement, les producteurs pensaient à Dennis Leary, de Rescue Me et de The Job, pour le rôle de Gregory House. Et parmi les acteurs pressentis, il y avait aussi un certain Patrick Dempsey, juste avant qu'il ne choisisse d'être le docteur Mamour dans Grey's Anatomy. Hugh Laurie, lui, est loin d'être un inconnu des téléspectateurs anglais, s'entend, hein. Parce qu'il a été en effet un des acteurs principaux, côté de Rowan Atkinson, d'une comédie qui a fait date, Blackadder, la vipère noire. Rowan Atkinson y joue le rôle d'un personnage vil et machiavélique à travers les époques de l'histoire britannique, de 1485 à 1917, avec à chaque saison une nouvelle époque et lui incarnant son propre descendant. Et Hugh Laurie a incarné lui aussi plusieurs personnages au fil des saisons, comme le prince Ludwig ou le prince George.
Really? Is it? Well, lucky, lucky us. Lucky, lucky, luck. Luck, 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 luck. Luck, luck, luck. Luck, 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 luck.
Mais bon, ça c'était en Angleterre. Hugh Laurie n'a pas fait que ça, loin de là. Vous vous souvenez du passager de l'avion au moment où Rachel va en Grande-Bretagne pour empêcher le mariage de Ross ? Eh bien, c'était lui.
Veuillez m'excuser, je peux vous interrompre ?
Oui ?
Je veux juste vous dire une seule chose, c'est que vous êtes vraiment une horrible personne.
Moi ? Non mais attends, je vous demande pardon ?
Vous dites que vous aimez cet homme et vous êtes sur le point de détruire le plus beau jour de sa vie. Je suis désolé, mais je suis de l'avis de votre amie Phoebe. Ce que vous allez faire est véritablement un projet monstrueux.
Il a aussi été dans Raison et Sentiment de Ang Lee, aux côtés de Kate Winslet et d'Emma Thompson, et surtout dans Stuart Little avec Gina Davis. Et c'est au moment où il tourne le film Le vol du phénix qu'on va lui proposer le rôle de sa vie. « Mais je vais lui laisser la parole. Il va nous le raconter lui-même dans des interviews génériques produites pour la promotion de la série.
J'ai été impliqué dans House alors que je faisais un film en Afrique. Vous le savez sans doute, on tourne pas mal de films là-bas. Ils m'y ont envoyé deux pages, une seule scène de Dr. House. J'ai demandé si je pouvais leur jouer ça sur une cassette. J'ai donc tourné la scène depuis la salle de bain de mon hôtel en Afrique, en Namibie. Et je pouvais déjà dire, rien qu'avec ces deux pages, que c'était vraiment génial. Bien au-dessus des trucs que l'on reçoit quand on est acteur. Je me suis donc filmé dans cette salle de bain et j'avais l'air décontenancé et esseulé. Et pour des raisons que je ne m'explique toujours pas, il semble que cette vidéo ait marqué mes employeurs. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je pense toujours que je suis là parce qu'il y a eu une erreur de frappe dans les documents. Mais eux, ils semblent y voir un intérêt.
Et la scène que Hugh Laurie a tournée donc dans sa salle de bain, ça donne ça.
You're 6 years behind in your obligations to the clinic.
See, I was right. This does not interest me.
6 years to have 3 weeks. You owe me better than 4 months.
It's 5 o'clock. I'm going home.
You know, the only reason I don't fire you is your reputation is still worth something to this hospital.
Excellent. We have a point of agreement. You won't fire me.
Your reputation won't last long if you don't do your job. All I want is for you to do your job.
But as the philosopher Jagger once said, you can't always get what you want.
Enthousiasmé, Bryan Singer et David Shore font venir l'acteur. Il passe alors à un nouveau casting, modifie son accent anglais pour le dissimuler derrière un phrasé américain, et il est pris pour le futur projet de série. Quelques mois plus tard, Hugh Laurie va tourner la même scène qu'il a répétée dans ses toilettes, cette fois devant Lila Edelstein, dans l'épisode pilote.
Look, Dr. House, the only reason why I don't fire you is because your reputation is still worth something to this hospital.
Excellent. We have a point of agreement. You're not going to fire me.
Your reputation won't last if you don't do your job. The clinic is part of your job. I want you to do your job.
But as the philosopher Jagger once said, you can't always get what you want.
À la base, pour moi, quand j'ai lu ces deux pages, j'étais persuadé que House allait être un personnage secondaire, périphérique aux autres, qu'il allait surgir une ou deux fois par épisode pour se montrer désagréable. Et que les autres, les beaux gosses, les bien propres avec les cheveux soigneusement traités, ils allaient être au centre de la série. House allait être un personnage irritant qui allait intervenir pour ennuyer tout le monde. Le grain de sable dans la machine. C'est avec un immense plaisir que j'ai découvert la vraie place du personnage. Et ce n'était pas uniquement à mon propre avantage, mais aussi à l'avantage de la série. J'ai pensé que c'était une démarche courageuse et intéressante. Le héros est un anti-héros avec plein de défauts. C'est vraiment ce qui m'a intrigué quand j'ai lu le script en entier.
Le docteur Gregory House est donc notre Horatio Kane du cynisme, notre Columbo de la recherche médicale, un diagnosticien génial, une sorte d'enquêteur du virus caché, de la bactérie qui tue, qui traque la maladie rare, les symptômes insensés et les patients atteints de maladies mystérieuses.
Au moment de la lecture en commun du script, on est tous assis autour d'une grande table et j'ai ce docteur qui est assis derrière moi. C'est un des conseillers médicaux de la série. En plein milieu de la lecture, je me retourne toujours pour lui demander « C'est bon ?» Et il répond « Ouais, c'est vrai, c'est réel. » Ce qui ne veut pas dire que c'est courant. Très peu de nos histoires sont courantes. La plupart d'entre elles sont uniques, mais elles sont théoriquement possibles.
Et seuls ces cas hors du commun l'intéressent et il ne souhaite pas faire de consultation. Parce que, comme si cela ne suffisait pas, le Dr House est un misanthrope lamentable, un dysfonctionnel, un égocentrique excessif qui n'aime personne et surtout pas ses malades.
Comment faites-vous pour le soigner sans le voir ?
C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui.
Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Hugh Laurie, lui-même, l'interprète du rôle.
C'est un misanthrope. Il n'apprécie guère la compagnie des autres. Mais il apprécie les jeux de l'esprit, résoudre des problèmes, la logique, la raison. Les problèmes qui lui sont posés à l'hôpital, c'est ce qu'il garde en vie. Je crois qu'il doit même y avoir une touche de dépression dans ce personnage. Il est même peut-être cliniquement déprimé. Mais il est réconforté par ses problèmes quotidiens, des problèmes qu'aucun autre docteur ne parvient à résoudre.
Bon, après ces crises, est-ce qu'elle transpire beaucoup ?
Elle est en nage.
Est-ce qu'elle a l'air perturbée ou simplement fatiguée ?
Ni l'un ni l'autre, elle trouve ça amusant.
Une enfant qui se balance, gémit, transpire, contracte ses muscles, plus des parents angoissés, égale un mauvais diagnostic d'épilepsie. En réalité, votre petite fille se contente de faire coucou à son joujou.
Comment ?
Bonjour la petite fleur. Guili-guili, gouzi-gouzi. Enfin, pouette le miaou.
Ça, c'est rigolo.
En fait, il ne vient pas s'asseoir sur le lit des patients. Il essaie même de ne pas être dans la même pièce qu'eux. La raison qu'il se donne est que ce que vous dit le patient, généralement, cela obscurcit les choses. Ça n'élimine rien, mais ça cache les choses. À cause des parents, par exemple. Oh, ça, c'est une découverte, n'est-ce pas ? Ou pas ? Les patients ne disent tout simplement pas la vérité. Ils se mettent en travers de votre route. Mais plus profondément, House est un homme qui n'est pas en paix avec la société, avec la place qu'on lui donne. Il en est sorti. Il est exclu de la fabrique sociale.
Mélo à soi, mais totalement dans le vide. Les chances de compatibilité sont quasi...
Vous vivez seul ?
Vous écrivez un bouquin.
Je connais la réponse, je posais juste la question par politesse. Vous avez une pancarte défense d'entrée collée sur le front.
Tout s'explique, je leur avais pourtant dit de la mettre sur la porte.
Les personnes à qui il a affaire sont mauvaises à l'extrême. Elles ne méritent pas sa confiance, sont vénales, corrompues, ont leur propre but. Elles ne l'intéressent donc pas. Ce qui l'intéresse, c'est le problème. Comment elles vivent et ce qu'elles en font, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'une personne est malade, que personne d'autre ne sait ce dont il s'agit, et que moi, je suis celui qui peut résoudre le problème.
J'aimerais vous voir porter une blouse.
Moi, j'aimerais deux jours de folie sexuelle avec une super nana plus jeune que vous, nettement plus jeune.
C'est sans doute la chose la plus intrigante de la série. Au centre de chaque histoire, il y a ce personnage qui refuse les règles, qui ne tiendra pas le rôle habituel du héros, qui ne prend pas soin des gens, qui ne joue pas avec le petit chien dans la scène finale et ne donne pas une petite tape amicale sur la tête des petits-enfants, à moins d'avoir à la main quelque chose de très lourd. C'est pas son truc. Il n'aime pas les gens. C'est en lisant le script que je me suis rendu compte que c'était très courageux de faire un tel personnage. Mais c'est un personnage formidable à interpréter. D'avoir cette liberté de choquer, de dire des choses de façon honnête, sans y mettre les gants. Bref, loin de l'attitude si gentille des héros traditionnels. Voici un type qui n'en a rien à faire et qui est terriblement libérateur et excitant à interpréter.
Et c'est du genre plus gros qu'un panier à pain ? Parce que le fait est que ça va ressortir tout seul. Si c'est pas trop gros, pas de problème. Ça sortira bien emballé dans un joli paquet mouplouf, mais si c'est gros, ça va coincer quelque part. Et là, vous risquez de beaucoup moins rigoler.
Comment vous avez...
Ça fait une demi-heure que vous êtes là et vous ne vous êtes pas assis, ce qui m'indique là où ça se situe. Vous m'avez toujours pas dit ce que c'était, j'en conclus que c'est humiliant. Vous avez un petit canard tatoué sur le bras, ce qui prouve que pour vous humilier, faut déjà y aller. Il y a donc peu de chances que ce soit des hémorroïdes.
Ça n'a l'air de rien, mais à lui tout seul, House a brisé un tabou dans les séries télé. La malédiction qui fait que les séries avec des personnages négatifs ne marchent pas. En effet, rare, très rare dans l'histoire des séries, sont les personnages méchants, affreux et détestables qui portent sur leurs épaules tout le poids d'une série. Et que celle-ci ait au final du succès. Et ça, c'est encore une fois Hugh Laurie lui-même qui le dit.
House differs from...
Dr. House est différent des autres séries, car le héros n'est pas un héros. Le héros est un individu bien plus complexe qu'on ne le montre généralement dans une série télé. Il est sans compromis et pas très plaisant. J'espère qu'on lui concède un peu de charme, car il est fascinant et drôle. C'est un personnage assez drôle, mais ce n'est pas franchement celui que vous voudriez avoir comme meilleur ami. Et il ne voudrait pas être le vôtre non plus. Il ne voudrait être l'ami de personne, en fait. Ce n'est pas un homme en accord avec le monde, et c'est très inhabituel. Je ne parviens pas à me souvenir d'une autre série où le personnage principal est comme ça, compliqué, et qu'il ne veut pas respecter les règles, qu'il s'agisse des conventions sociales ou les règles des séries télé.
Et oui, parce qu'aux États-Unis, il faut remonter dans les années 70 pour avoir un succès avec All in the Family, une sitcom où le père de famille, Archie Bunker, est un bigot, raciste et homophobe. Bon, généralement, s'il y a un grand méchant, il est toujours contrebalancé par son équivalent positif. Le meilleur exemple, c'est JR, qui ne peut pas avoir de succès sans Bobby. D'ailleurs, le jour où Patrick Duffy a abandonné Dallas, le public est parti en masse. Larry Hagman a dû le supplier de reprendre la route des studios. À lui tout seul, Larry Hagman ne suffisait pas à faire de Dallas un succès. Il y a toujours un gentil pour compenser le méchant, mais il y a une exception. On se souvient de Profit et de son Golden Boy sociopathe qui ne dépassa pas la dizaine d'épisodes. Mais là, dans House, pas de gentil. House s'engage dans une voie réputée perdue d'avance, et pourtant, avec The Shield et son flic ripou, avec Dexter et son serial killer, la mode est passée à ses personnages arrogants et provocateurs. House a entraîné une brouette de copies. On se souvient de Stark, alias James Woods, l'avocat de la série Shark, de Stanley Tucci, en insupportable chirurgien du cerveau dans Three LBs, de Victor Garber, tout aussi implacable, en avocat dans Justice. Et des années plus tard, la descendance de House se voit dans des personnages comme Walter White, en Breaking Bad, Annalise Keating, How to Get Away with Murder, et Francis Underwood, House of Cards. Alors voilà, on pourrait arrêter là la consultation. Se dire que Dr. House a fait la preuve qu'une série mettant en scène un personnage irascible et détestable, mais attachant, suffirait. Et que, comme pour une sitcom, il suffisait de lui trouver des punchlines et des répliques qui font mouche pour continuer des années durant la série sur exactement la même formule qu'au début. Avec simplement des petites touches de modifications par-ci par-là. Eh bien oui, on pourrait penser ça, mais non. À tous ceux qui pensent que les séries longues destinées au grand public ne doivent pas rompre le statu quo, ni changer trop la formule qui marche et soigneusement dissimuler les sujets trop controversés, eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez tort.
Sœur Augustine croit en des choses qui n'existent pas.
Je pensais que c'était une des conditions requises pour faire votre boulot.
Car si la consultation que Grégory House a bien voulu nous donner aujourd'hui, et on le remercie, ben, elle touche à sa fin, il ne faut quand même pas le retenir plus longtemps parce que sinon il serait très vite agacé. Il nous faut prendre un nouveau rendez-vous auprès de ceux qu'il côtoie, sa supérieure, le docteur Cuddy, et son assistant, le docteur Chase, qu'on a un tout petit peu entendu, pour avoir une autre vision du personnage et apprendre que la formule de House a, à maintes occasions, implosé, bougé, changé, s'est reconstituée tout en se modifiant. On a fait disparaître les personnages secondaires, on en a même supprimé quelques-uns, mais alors définitivement, et on a même envoyé House en institut psychiatrique pour finalement le faire mourir. Ou pas. Enfin, c'est selon. Donc, pour vous raconter tout cela, et pour laisser à César notre brillant monteur le temps de souffler un peu après cette première partie extrêmement éprouvante, je vais prendre rendez-vous pour une autre consultation. Alors, on va dire quoi, la semaine prochaine, par exemple, hein, à la même heure, ça vous va? Bon, allez, rendez-vous dans le prochain Previously. Portez-vous bien, hein. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.